Nous sommes toujours avec Oscar Freisinger, cinquième invité de notre série Face au Parti, vice-président de l'UDC Suisse. Bonjour Pietro Bugnon.
Bonjour.
Vous êtes un de nos journalistes parlementaires à Berne. On va avec vous faire une radiographie de cette UDC, législature passée, législature qui s'annonce. Quels sont les tops et les flops? On va commencer par les flops de l'UDC, premier parti de Suisse, mais il n'y a pas que des victoires.
Non, il n'y a pas que des victoires, on ne le dit pas souvent, mais l'UDC a connu des échecs dans les urnes ces quatre dernières années. Deux de ses initiatives, l'élection du Conseil fédéral par le peuple, trois quarts de non quand même, et puis l'initiative sur les familles, 58% de non. Et puis l'échec le plus retentissant, c'est sans doute le Gripen, qui était porté par Uli Maurer. Et puis l'UDC a aussi perdu sur des autres objets qu'elle soutenait de près ou de loin, l'initiative Accords internationaux, la parole au peuple de l'ASIN, l'initiative L'avortement est une affaire privée, l'initiative sur l'or et plus récemment la loi sur la radio-TV. Au tableau des points négatifs, il y a bien sûr les nombreuses affaires, Perrin, Le Gris, Murgeli, récemment, on en a parlé tout à l'heure, les bisbis à l'UDC Vaud. Et puis ces quatre dernières années, l'UDC n'a pas vraiment brillé par sa clarté. Finalement, elle est un peu condamnée à ménager la chèvre et le chou, on peut aussi dire le bouc Zottel et le petit chien Bouvier Bernois Villy. D'un côté, continuer sur la ligne dure du parti, celle qui a fait le succès de l'UDC, mais de l'autre, adopter aussi un discours un peu plus policé, un peu plus gentil pour continuer de progresser. Et du coup, au final, on perd en lisibilité.
C'est dur de percer avec d'autres thèmes que l'asile. Oscar Freisinger, la Pietro Bugnon vient de nous lister toute une série de défaites pour votre parti. On a l'impression que vous avez de la peine à vous profiler sur d'autres thématiques que la migration, que l'asile, que le chaos de l'asile, que les étrangers. Vous le sentez comme ça aussi? Vous le reconnaissez peut-être?
On a gagné sur des initiatives. Par exemple, les deux initiatives sur les pédophiles, l'UDC était quasiment seul à soutenir pour l'imprescriptibilité ou bien pour que les pédophiles travaillent plus avec des enfants. On a gagné sur des thèmes des sujets de société aussi, mais c'est vrai que la colonne vertébrale et la raison pour laquelle je suis à l'UDC, c'est parce que c'est le seul parti que je prends au sérieux quand il dit qu'il défend la souveraineté de ce pays. Et cette souveraineté est essentielle parce que ça défend un système unique au monde où le peuple est souverain, réellement souverain. Vous avez la démocratie directe, le fédéralisme, vous avez des institutions qui fonctionnent.
Vous les attaquez parfois ces institutions du côté de l'UDC. Vous dites qu'elles fonctionnent, mais vous les attaquez.
Ceux qui veulent les brader. Ce qui se passe maintenant avec cet accord cadre qu'on veut nous vendre comme étant la panacée, c'est rien que la reprise automatique du droit européen, avec en plus un arbitrage par un tribunal européen. Ça veut dire la fin de la démocratie directe à 85-90%. Donc comment est-ce qu'on peut accepter une telle chose? Comment est-ce qu'on peut essayer de rouler son propre peuple, qui est le souverain, de cette manière? Là, l'UDC sera toujours présente, et c'est pour cette raison que les gens votent pour nous, pas pour autre chose. Parce qu'il n'y a qu'un seul parti qui fait ça, et tous les autres, ils essayent quelque part de rouler les gens dans la farine à ce niveau-là.
26,6% des voix, je le disais, en 2011. Vous avez atteint votre score maximum, là, vous allez descendre encore?
Alors ça j'en sais rien, moi je pense qu'on va continuer à progresser, moi je suis très très confiant pour ces élections, je pense qu'on va progresser, parce que alors les sondages, vous savez, ça fait quelques années, j'ai vu un peu les résultats qui sortent des urnes après, donc là la fiabilité ne semble pas du tout être garantie.
On donne 26-1, hein, Pietro Bugnon pour cet automne.
On contrôlera le soir des votations.
Pietro.
Oui, non, vous parliez tout à l'heure du respect des institutions, c'est vrai que l'UDC le dit toujours, mais en même temps, on se rappelle 2014, Christophe Blocher qui quitte le Parlement, et quand il part dans une interview sur Télé Blocher, qu'est-ce qu'il dit? Il se plaint de la lenteur, du manque d'efficacité du Parlement. Il y a quand même un double discours.
Il dit qu'il s'ennuie carrément. Hein.
Mm-hmm, absolument.
Je constate quoi, Berne? Qu'est-ce que je constate?
Vous vous ennuyez, vous aussi?
Mais j'ai fait 12 ans maintenant, j'ai fait le tour du problème, je suis content maintenant de partir vers autre chose.
Mais vous ennuyez, franchement, répondez à ma question.
Ah, mais il y a quand même des matins où on s'ennuie. Quand vous avez 30 orateurs qui suivent pour dire à peu près la même chose, je veux dire, il y a quand même un moment où vous posez la question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, parce qu'il y a quand même peut-être mieux à faire.
Là, vous n'êtes pas en train de défendre l'institution, si je puis dire.
Non, mais je ne défends pas l'institution, je dis simplement, c'est un fait. C'est que dès le moment où vous avez un parlement prétendument de milice, où la plupart des gens se repaissent de conseils d'administration, de prébendes, diverses. Et ensuite, entre gens de bonne compagnie, n'est-ce pas, on va surtout pas s'embêter les uns les autres, quand vous avez des lobbies comme la pharma, etc., qui ont un pouvoir tel de blocage que vous n'arrivez pas à trouver des solutions, j'ai quand même un problème.
Il faut interdire les lobbies.
Mais moi, je serais pour, en tous les cas, que les gens annoncent les montants qu'ils touchent dans ces conseils d'administration, qu'ils obtiennent par leur rôle de conseiller national, et à ce moment-là, on saurait qui paye et qui commande, parce que c'est celui qui paye qui commande. Et c'est là où ces représentants du peuple, tout à coup, sont les représentants de lobbies particuliers.
Bon,
moi, j'ai toujours fustigé ça.
C'est le système
j'ai fait
suisse,
des motions hein. à ce sujet.
Ouais, c'est le système suisse.
Mais ça me gêne parce que ça paralyse complètement le Parlement. Et on ne peut plus leur croire à ces gens-là. On ne peut plus les croire lorsqu'ils disent qu'ils défendent les intérêts du peuple. appeler le bien commun, parce que c'est des biens, des intérêts privés qui prévaut.
Alors, on peut aussi préciser qu'à l'UDC, des parlementaires UDC sont aussi soutenus par des lobbies. Il n'y a pas que les autres partis.
Je fustige ça dans mon propre parti. Oui. C'est général, c'est pas seulement les autres partis, évidemment. Et la gauche, elle, c'est encore pire, parce que c'est toujours des organisations para-étatiques. Donc, ils sont payés quelque part par l'État, ou bien leur combat syndical se mélange complètement à leur combat politique en tant que nationaux. Donc, eux aussi sont complètement pris dans leur gâteau et dans leur prébende. Absolument comme la droite. Au moins, la droite, elle est plus honnête parce que c'est plus visible.
Mais là, vous défendez les institutions il y a 5 minutes, mais là, vous êtes en train de dire qu'il faut faire exploser le système.
Non, mais je défends l'institution, le Parlement en tant que tel, la démocratie directe et tout ça. Je le défends, mais c'est la manière qui me gêne, la manière de le pratiquer. On peut le faire sans avoir ces prébendes. Je l'ai fait. J'ai jamais accepté le moindre conseil d'administration. C'est d'où j'ai ce ton de liberté. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi je suis le seul à oser fustiger certaines choses ouvertement ici à la radio?
C'est pour ça qu'on dit de vous que vous ne représentez que vous-même.
Non, je représente le peuple. Parce que le peuple m'a élu et c'est à lui que je rends des comptes. Et aucun lobby privé ne peut me téléphoner le matin et me dire « Ah, attends, on te paye là dans tel conseil d'administration, ici et là. Hein, maintenant, ton discours, là, il nous convient plus parce qu'il contrevient à nos intérêts. » Personne, jamais. Et même Christophe Blocher ne peut pas me téléphoner le matin pour me dire ça.
Eh ben, c'est un scoop qu'on tient là, Pietro Bugnon. Oscar Freisinger, la question de front aussi de cette législature qui s'annonce, c'est évidemment le deuxième siège UDC. Ça, c'est vraiment un serpent de mer. Vous avez échoué dans votre volonté de faire élire le Conseil fédéral par l'Opel, ce qui vous aurait assuré d'un deuxième siège, selon le rapport de proportion. Et là, évidemment, vous êtes condamné à garder le seul siège d'Ouli Maurer. Question, ou peut-être un deuxième UDC, mais qui soit alors PLR compatible, PDC compatible, PS compatible. Ce deuxième siège UDC, le PLR pose des conditions. Ça dépendra, selon Philippe Muller, président du PLR, de quelqu'un qui serait nommé, mais qui soutient les bilatérales, la Convention européenne des droits de l'homme, ces juges étrangers dont l'UDC ne veut pas, contre lesquelles elle fait campagne. Donc ce sont des conditions, a priori, c'est une question inadmissible telle que posée par Philippe Muller.
Absolument. S'il faut vendre son âme pour participer à la grande esbrouffe, je préfère rester à l'extérieur du festin.
Donc vous préférez garder un seul
siège. Écoutez, je suis membre du gouvernement valaisan. Mais aucun de mes collègues au gouvernement ne me demande de renier mes racines politiques, de tout à coup partager toutes leurs idées politiquement correctes. Personne. Et le peuple qui m'a élu là, il a élu une personne dont on savait particulièrement bien ce qu'elle pense. Donc c'est ça la politique honnête, claire et nette. C'est que ce gouvernement fonctionne de manière collégiale. Et je suis vraisemblablement le plus collégial actuellement au gouvernement valaisan. J'ai aucun problème avec mes collègues, mais je n'ai jamais renié une seule de mes idées. Je les amène dans le gouvernement et je les y défends. Alors s'il y aura un jour, s'il devait y avoir deux UDC dans le gouvernement fédéral, c'est la même chose. Ils amènent leurs idées tout à fait UDC dans ce collège gouvernemental.
C'est deux ou rien en fait. C'est deux UDC. Canal historique ou rien du
ils
tout.
Ils seront que deux sur sept. Donc s'ils sont que deux à défendre une position, ils perdront au vote. En quoi est-ce qu'on veut castrer un UDC avant qu'il puisse participer au gouvernement? Non mais moi, j'arrive pas à comprendre. Soit il y a une logique arithmétique et que le plus grand parti de Suisse a droit à ses deux sièges, ou alors toute l'histoire n'est plus que de ces mensongers, c'est de l'hypocrisie appliquée.
Mais vous pouvez rien faire évidemment sans le vote des autres. Donc si vous êtes condamné à ne garder qu'un seul siège, c'est toujours cet UDC avec cette image, un pied dedans, un pied dehors, opposition, gouvernement. Vous allez continuer d'être un peu illisible, selon ce que je viens de dire, là, Oscar Freisinger. C'est votre destin.
Sur ce point, vous avez raison. J'étais de ceux qui n'auraient pas voulu retourner dans le gouvernement. Lorsque ça s'est joué il y a quelques années, j'ai voté pour le ticket unique de Christophe Blocher. Ça veut dire que les autres auraient refusé. Et puis on sortait du gouvernement, ce qui aurait été beaucoup plus honnête et plus clair. Maintenant, on a un pied dedans, un pied dehors. Effectivement, c'est une situation inconfortable. Je suis encore de l'avis suivant. Soit on y est en restant nous-mêmes, en ne vendant pas notre âme, et c'est ce qui est la force de la Suisse, c'est qu'elle intègre toutes, on ne demande pas aux socialistes non plus de renier leur marxisme-léninisme. Quand j'entends Levrat, franchement, des moments, j'ai l'impression que l'URSS n'est pas morte. Donc on ne leur demande pas de renier ses idées, et pourquoi l'UDC, on demanderait de faire cela? Alors soit on y entre sans vendre son âme, soit on sort. Moi je suis toujours pour des solutions très simples et très honnêtes.
Position très claire. Pietro Bugnon, on a abordé les flops, entre guillemets, de l'UDC, maintenant les tops, parce qu'on parle aussi de ce qui joue. Qu'est-ce qui a bien joué ces quatre dernières années?
Des victoires déjà, des victoires dans 19 élections cantonales en 4 ans. Ça s'est traduit par une hausse du nombre de sièges dans les parlements cantonaux, mais quand même moins que le PLR et que les Verts libéraux. Plus de sièges aussi dans les exécutifs, mais surtout, outre Sarine, parce qu'en Suisse romande, ben, vous êtes le seul conseiller d'État UDC Oskar Freisinger. Et puis l'UDC, c'est bien sûr le parti des initiatives qui usent, voire qui abusent, diront certains, des initiatives. Deux textes acceptés durant cette législature, l'immigration de masse, bien sûr, le 9 février, et puis la marche blanche, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a des initiatives aussi qui sont en préparation. On parle de limiter le droit d'asile, on parle aussi de l'interdiction du port du voile au niveau fédéral, mais là, pour l'instant, ces initiatives ne sont pas lancées. Des initiatives pour mettre en œuvre, en l'occurrence celle pour l'expulsion des criminels étrangers. Et puis, une initiative pour laquelle vous récoltez des voix aujourd'hui, l'initiative qui veut placer la Constitution au-dessus du droit international, c'est ces fameux juges étrangers.
Et au dire du parti, c'est fructueux cette récolte de signatures, Oskar Freisinger, c'est vrai ?
C'est la démocratie vivante, c'est-à-dire que vu que c'est la démocratie directe, vu qu'on a ce système unique au monde que tout le monde nous envie, et ça doit être vivant, et si ça veut rester vivant, ça doit être, il faut qu'on en use. Si c'est quelque chose qui est un droit dont personne ne fait usage, bah il sert à rien. Donc d'en appeler au peuple, pour moi c'est toujours une bonne chose. Ainsi la légitimité d'une décision qui est prise est beaucoup plus forte. C'est ce qui fait qu'on n'a pas tout le temps ces grèves, ces manifestations, ouais, cette violence urbaine en Suisse, parce que le peuple a des instruments institutionnels pour faire opposition. Au fond, c'est le peuple, l'opposition au système politique, et je trouve que c'est très bien.
Si l'envoie à votre initiative du 9 février 2014 acceptée, mais elle n'est toujours pas mise en œuvre, enfin, il y a encore un petit bout de temps pour qu'elle le soit.
Ça, c'est un déni de démocratie.
Alors, vous dites que c'est un déni de démocratie. Au fond, est-ce que ce n'est pas en train de se retourner contre vous, y compris pour ce scrutin-là du 18 octobre ? Ça ne devient pas un boulet que cette initiative-là, pas appliquée, peut-être pas applicable, tout le monde cherche une solution, tout le monde la critique. Ça ne finit pas par être la créature qui se retourne contre son créateur. Ça, c'est l'initiative du 9 février 2014.
Absolument pas. Lorsqu'on ne veut pas appliquer ce que le peuple a décidé, voilà où on arrive. Donc cette initiative, elle est claire, elle veut simplement qu'un pays souverain qui a constaté, et Dieu sait si je me suis battu contre Schengen-Dublin, j'ai toujours dit, en 2005, j'ai dit, ça ne peut pas fonctionner, il faut que les frontières extérieures soient étanches et que tout le monde joue le jeu. C'est ces deux conditions qui doivent être réunies pour que Schengen-Dublin puisse fonctionner. Ça ne fonctionne pas parce que c'est une solution pour beau temps. Et là, actuellement, la tempête se lève, c'est terminé, les Allemands ont arrêté de jouer le jeu de Dublin, c'est fini, terminé, et personne ne veut avouer l'échec. Alors nous essayons simplement de demander au peuple, nous avons essayé. C'est le peuple qui a décidé. Lui en vont poser la question. Voulez-vous réguler les flux migratoires ? Pas les arrêter, pas créer de la Suisse une forteresse fermée. Non, réguler. Faire quelque chose d'ordonner, donner le temps aux gens de s'intégrer, faire ça de manière correcte, acceptable aussi pour les citoyens, en toute harmonie, plutôt que cette déferlante qui crée un chaos indescriptible actuellement en Union européenne.
Pietro Bunion.
On peut quand même rappeler que vous vous êtes pas fait beaucoup d'amis chez les patrons avec l'initiative du 9 février. Il y a ce classement de bilans, 222 votes étudiés au Parlement. L'UDC est derrière la gauche pour les partis qui défendent le plus l'économie. Il y a aussi, je vous accorde, un autre classement de l'USAM, où Jean-François Rime est à la tête de l'USAM, qui dit que l'UDC est dans le haut du classement. Mais il y a deux classements, mais on est d'accord, vous vous êtes pas fait des amis chez les patrons dans l'économie.
Alors, c'est extraordinaire, parce que au niveau des PME et du travail sur l'économie de proximité, nous sommes de loin ceux qui défendent le plus, parce que notre programme est très clair là-dessus. Par contre, si... soutenir l'économie, ça veut dire faire entrer les déshérités d'autres continents en masse pour qu'ils disposent, au niveau du travail au noir et du dumping et de la main-d'œuvre bon marché, de gens qui sont corvéables à souhait. Moi, j'y suis pas. Alors, si c'est ça la dignité humaine, alors je comprends plus rien. Et puis, en plus, ça met en péril les classes moyennes actuellement dans l'Union européenne qui sont en train de fondre. On est en train de danser sur un volcan et personne ne réagit. C'est d'une hypocrisie absolument totale ce qui est en train de se passer.
Oskar Freisinger, beaucoup appelle à revoter, en tout cas à voter définitivement, clairement sur la question des bilatérales pour rebondir et réagir à l'initiative du 9 février 2014. Si on devait voter, si le peuple suisse devait voter sur les bilatérales, pas sûr qu'il suive l'UDC, là, qu'est-ce que vous en pensez de voter sur cette question ?
Alors, essayez de faire revoter le peuple. Alors, je peux vous dire, nous ne sommes pas les Français qu'on a réussi à rouler dans la farine, ou bien les Irlandais, on fait voter, revoter 10 fois s'il faut, pour qu'enfin on ait le résultat que veulent les élites.
Vous qui en appelez à la démocratie, vous ne pouvez pas vous plaindre qu'on fasse voter les Suisses.
Je me réjouis de voir le résultat. D'accord. J'ai jamais vu la Suisse jamais vu le peuple suisse, le souverain, se défausser par rapport à une décision qu'il a prise.
Les ambitions de l'UDC pour cette législature qui s'annonce, quelles sont-elles, Pietro Bugnon?
26,6%, c'est le score électoral de l'UDC en 2011. Eh bien, Tony Brunner dit il faut faire au moins aussi bien qu'en 2011. Et puis, surtout, essayer de gonfler un peu la députation au Conseil des États. L'UDC est toujours sous-représentée dans cette chambre. Au niveau du programme, pas de grande nouveauté. Sur la forme, l'intitulé du programme, c'est toujours le même. UDC, le parti de la Suisse. On reconnaît aussi l'humour de votre parti, c'est Willy le chien qui illustre votre programme.
Beaucoup d'animaux. Hein.
Beaucoup d'animaux. On le voit même en train d'uriner sur des feuilles d'impôts. Sur le fond, c'est la continuité contre l'Union européenne, contre l'immigration, contre les abus dans le droit d'asile, on y reviendra. Et puis, il y a une nouveauté qui intéresse peut-être particulièrement les romans. Après un débat houleux en Assemblée des délégués, vous avez réussi à inscrire dans le programme de l'UDC la priorité à l'enseignement des langues nationales. Mais on rappellera que votre président, Tony Brunner, qui est président de l'UDC depuis 7 ans, parle encore très mal le français.
Oui, c'est pour cette raison que je suis ici ce matin.
C'est vrai, je confirme. C'est pour ça qu'on vous a invité. Le chaos, je crois que vous avez utilisé deux fois ce mot, chaos, le chaos de l'asile en Suisse. Cette année, le secrétariat d'État aux migrations s'attend à recevoir 29 000 demandes d'asile. On est dans les mêmes ordres de grandeur que les années précédentes et j'ai relevé que la Suisse a connu, à la fin des années 90, avec la guerre dans les Balkans, 53 000 demandes d'asile, un peu moins de deux fois plus. Donc 29 000, 53 000, où est le chaos, franchement, là, Oscar Freisinger?
Mais le chaos est général.
Non, je parle de la Suisse.
Parce que, mais ça continue simplement.
Mais vous, où est le chaos additionnez... en Suisse? Où est-ce que vous mettez le chaos? À Chiasso, à Berne,
mais
à Genève?
Lorsqu'à la frontière, pour le moment, par exemple, sur le fameux train Tello, j'arrive encore à les renvoyer en Italie directement, c'est clair. Mais le jour où l'Italie ne joue plus le jeu, ça va mal se passer.
Vous avez parlé de 300 personnes qui n'y étaient pas dans ce fameux train.
Si, ils sont 30 à 40 par train, mais le contrôle s'est fait sur une semaine. Quand les journalistes ne veulent pas laver les oreilles le matin, évidemment, ils comprennent ce qu'ils veulent.
Il y avait eu un cafouillage quand même de votre part. Vous aviez annoncé. Il y avait une arrivée en deux jours et c'était en deux mois.
C'était pas en deux mois. C'était une fois une semaine et puis après une deuxième fois une semaine. La première fois 180. Et c'est ce que j'ai dit au journaliste. Mais il a essayé de me faire un sale coup, comme c'est l'habitude. Maintenant, je commence à connaître. Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. Puis j'ai pu le rectifier quand même, heureusement, dans le matin dimanche. Mais bon.
C'est pas nos gens de faire des effets de manche ni de l'émotionnel. Vous avez quand même sous vos yeux, Oscar Freisinger, Pietro Bugnon, vous l'a amené, cette photo là qui a fait le tour du monde depuis deux jours, de l'enfant syrien noyé, échoué sur une plage turque. Juste humainement, quand vous voyez ça, comment vous réagissez, quand vous voyez cette photo-là?
C'est un scandale, c'est une honte et je dénonce tous les hypocrites qui prétendent défendre les droits humains et qui permettent cela, par l'appel d'air qu'on a créé, par la politique absolument irresponsable de l'Union Européenne. Ils ne font rien contre les passeurs, ils disent qu'ils font contre, mais ils ne font rien. Ils n'essayent même pas de couler ces bateaux de passeurs avant qu'ils quittent la côte libyenne, ils ne font rien du tout. Et puis après ils viennent pleurnicher et ils viennent jouer la carte émotionnelle avec ce genre de photos. C'est indigne, c'est scandaleux d'utiliser ça ensuite pour le combat politique comme vous le faites. Moi, à votre place, j'aurais honte, c'est scandaleux ce que vous êtes en train de faire, c'est tout.
Non, mais on vous montre une photo qui est dans tous les médias.
C'est justement dans tous les médias, mais bien sûr.
Ah, vous pensez qu'ils ne sont pas la publier?
Mais c'est utilisé politiquement, ça. Alors. C'est scandaleux d'utiliser la mort d'un enfant de cette manière. Moi, je vous accuse de participer au grand scandale qui est en train d'avoir lieu. Alors. C'est la vie des êtres humains qui sont en jeu. On a les moyens pour arrêter ça et on ne le fait pas.
Accusez-nous
c'est
de
tout.
Ce que vous voulez, mais cela dit, que doit faire la Suisse pour empêcher ça? Est-ce que vous dites que c'est une hypocrisie, etc.? Est-ce que la Suisse doit ouvrir pour le coup, puisque ce sont des réfugiés qui fuient la guerre, les Syriens, et pas des réfugiés économiques? Est-ce qu'on doit ouvrir tout grand nos frontières aujourd'hui quand vous voyez ça?
Vous pouvez ouvrir tout grand votre frontière.
Je vous pose la question. Hein.
Vous pouvez ouvrir tout grand vos frontières, créer des problèmes sociaux en Suisse sans fin, soit vous pouvez le faire. Vous n'empêcherez pas la noyade des gens dans la Méditerranée.
Comment l'empêcherez-vous? Il faut agir sur quel levier pour empêcher ça?
Il faut arrêter de créer un flux migratoire par l'attractivité. On a créé un appel d'air par l'attractivité.
On sait qui?
Mais en tous les cas, l'Union européenne, parce que évidemment, dans ce jeu-là, nous, on est au centre du dispositif et on subit puisqu'on fait partie de Schengen-Dublin.
Et la Suisse fait quoi pour accueillir ces gens? Il faut les accueillir ou pas?
Ceux qui viennent, c'est le problème qu'il y a, c'est quand ils viennent en trop grand nombre, c'est que les vrais réfugiés risquent de couler dans l'histoire. Ils risquent réellement de ne pas être reconnus comme tels, parce qu'il y a une telle masse, un tel afflux, et ça crée une résistance au niveau de la population. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de faire en sorte à ce qu'on crée des camps de réfugiés. Et ça, peut-être par une intervention à l'ONU.
Christophe Blocher avait fermé des camps.
Qu'on crée
des
ce genre
hein,
de camps dans les pays d'origine, ou les pays, disons, proches des frontières. Et puis, vous savez, il y a énormément d'esbroufes là-dedans. Quand j'apprends, par exemple, que le président érythréen encaisse un impôt sur les Érythréens qui immigrent en Suisse il encaisse un impôt là-dessus, ou bien qu'un certain nombre de ces requérants partent passer des vacances dans leur pays d'origine où soi-disant ils sont menacés de mort. Excusez-moi, mais je comprends que le contribuable suisse, il commence à en avoir
un vrai réfugié, pardonnez-moi Pietro, un vrai réfugié, celui qui en a vraiment besoin, un réfugié qui fuit la guerre, vous en accueilleriez chez vous êtes père de famille, un comme Leonard Gianada.
Absolument.
Oui, vous prenez l'engagement
vous
là
vous en...
Oui, allez-y.
J'ai déjà accueilli une Roumaine pendant 3 mois chez moi parce qu'il y avait un problème avec son mari, ensuite ils se sont rabibochés, elle est restée en Suisse. Mais je l'ai accueilli pendant 3 mois chez moi. Alors je demande à n'importe quel socialiste de faire peut-être la même chose avant de demander à l'État de toujours faire
la question. Pietro.
Oui, c'est intéressant quand même de revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Installer des camps dans les pays de départ de ces migrants. En même temps, l'UDC, le programme de l'UDC stipule qu'il est, je cite, « hors de question d'augmenter les fonds d'aide au développement ». Vous êtes très critique envers la DDC, qui a toujours refusé, l'UDC, vous avez toujours refusé d'augmenter les fonds de l'aide humanitaire, de la coopération helvétique.
Non, attendez, c'est pas pour mettre de l'argent dans un tonneau sans fond. Si on fait quelque chose, c'est ciblé.
La DDC, c'est un tonneau sans fond.
Mais bien sûr, mais vous avez vu l'argent qu'ils foutent par la fenêtre quand il s'est agi là de ce fameux tsunami en Thaïlande. Non mais attendez, quand on voit ce qu'ils ont construit, que personne n'utilise, c'est en train d'être bouffé par la jungle, mais je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse utiliser l'argent du contribuable de cette manière. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment une intervention financée et ciblée sur des camps que l'on crée avec des conditions tout à fait humaines à proximité du pays d'origine. C'est le seul moyen d'agir. D'arrêter aussi ce néocolonialisme qui continue à faire en sorte à ce que les pays africains soient surendettés, qu'on maintienne des dictateurs au pouvoir, qu'on crée finalement cette pauvreté pour pouvoir piller les richesses naturelles de l'Afrique. On n'a jamais cessé au fond le colonialisme. Et ça, je reviens là-dessus, les anglo-saxons, maintenant un peu les chinois, mais surtout les anglo-saxons sont les premiers responsables.
Il y a des pays dans lesquels l'aide au développement ne peut pas intervenir. L'Érythrée, aucune ONG suisse n'est présente dans ce pays. Le CICR n'a pas accès aux prisons de ce pays. La communauté internationale ne peut juste rien faire en matière d'aide au développement en Érythrée.
Alors l'Érythrée, c'est pour moi le meilleur exemple. Somaruga donne un signal
30
positif.
Secondes, 30 secondes, pardon.
Bon, elle donne un signal positif en disant « Ah, on reconnaît l'objection de conscience comme une raison d'asile » et tout de suite, vous avez des centaines qui arrivent. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, on ne fait pas de la bonne politique avec des bons sentiments. On regarde quelle est la situation objectivement en essayant de mettre en arrière ces sentiments et ensuite on fait les solutions qu'il faut appliquer. Mais on ne fait pas de la politique en faisant dans la pleurniche et les bons sentiments. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière.
Ça, je crois que beaucoup seraient d'accord avec vous sur cette conclusion-là. Oscar Freisinger, on vous remercie d'avoir été notre invité ce matin. Le jeu, c'est de poser la question au suivant, ce sera lundi, le MCG, Roger Gollet. Vous avez une question à lui poser, on lui transmettra, c'est promis. On fait ça avec tout le monde.
Quand est-ce qu'ils ont l'intention de fusionner avec l'UDC à
Genève? Voilà, c'est une question très courte et très pragmatique. Merci Oscar Freisinger d'avoir été avec nous. 5e invité de Face au Parti, merci à vous Pietro Bugnon.